Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Pause que nous ouvrions notre Bible. Un premier texte que nous retrouverons à la fin de notre méditation, on y reviendra en conclusion. C'est dans la première épître de Pierre, voilà, première épître de Pierre, au chapitre 1er et au verset 10. Pierre 1, verset 10. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Voilà. Alors vous allez me dire, c'est difficile à comprendre tout ça, mais je vais vous l'expliquer par un autre texte. Parce que ce passage, c'est l'illustration, tout simplement, ou c'est le principe de ce que les hommes peuvent attendre de Dieu. Voilà. Alors, il y a certainement une préparation, une inspiration, une aspiration profonde à voir Dieu agir dans notre vie. Et ce que nous sommes cet après-midi, ce que nous pouvons représenter, c'est que si nous avons fait cette démarche de venir écouter le message de l'Évangile, c'est que peut-être vous vouliez occuper votre temps, mais je ne pense pas. Mais peut-être que vous aviez aussi cette attente et ce besoin que Dieu parle, que Dieu vous parle, que Dieu réponde à nos questions, et surtout qu'il comble, en effet, parfois le vide qu'il y a à l'intérieur de nous-mêmes, et vraiment de voir Dieu agir dans notre vie. On sait que le Dieu que nous prêchons, le Dieu de l'Évangile, c'est un Dieu qui fait des miracles. Il est capable de faire de grandes choses pour les hommes, hier, aujourd'hui. Il est capable de bouleverser notre vie, de transformer radicalement notre existence et finalement de nous donner des certitudes, des assurances, quelque chose de fort dans notre cœur. Vous savez, on n'est pas chrétien pour aller de temps en temps à la messe ou au culte. C'est pas ça, être chrétien. C'est véritablement avoir ce besoin de suivre Jésus-Christ, de vivre comme Jésus a vécu, et de faire du bien, d'apporter un message et un témoignage d'espérance autour de nous. Alors, il y a un exemple dans le Nouveau Testament de ce que nous avons lu, de cette aspiration pour chercher dans le temps et les circonstances, l'époque et les circonstances, le temps que nous vivons aujourd'hui, ce que Dieu a à nous dire. Et puis un beau jour, il y a un homme qui a réalisé cela d'une manière tellement forte, tellement extraordinaire. Vous savez, il s'appelle Siméon. Ça vous dit quelque chose? Siméon, c'est dans l'évangile de... C'est dans la Bible, assurément. C'est dans l'évangile de Luc. Voilà. Dans l'évangile de Luc. Et c'est une belle histoire qui nous est racontée parce que c'est un homme qui attend. Il attend quelque chose. Il n'attend pas quelque chose des hommes, il attend quelque chose de Dieu, et Dieu va lui répondre, figurez-vous. Alors, Luc, chapitre 2, verset 25. Voilà. Chapitre 2, verset 25. Et on va voir cette belle histoire, qui peut-être est l'histoire de chacun, qui a été peut-être l'histoire de chacun, qui peut le devenir, en effet, peut-être pour ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, pour ceux qui attendent. Alors voilà ce qu'il nous est dit. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit et comme les parents apporter le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras et bénit Dieu et dit « Maintenant, Seigneur, tu laisses aller ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. » Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Siméon les bénit et il dit à Marie, sa mère, « Voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël, à devenir un signe qui provoquera la contradiction, et à toi-même une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. » Alors vous l'avez compris, il s'agit tout simplement d'une époque qui nous amène, tout simplement puisqu'il est question de temps et de circonstances, qui nous amène tout de suite après la naissance de Christ, où l'enfant Jésus est présenté selon la loi des Juifs au temple de Jérusalem. L'enfant, en effet, a quelques 8 jours, me semble-t-il, et nous n'avons pas tellement parlé de cette circonstance qui nous ramène à la naissance de Jésus, mais l'expérience de cet homme liée à cet événement qui s'est produit dans le temple de Jérusalem lorsque, eh bien, Marie, Joseph, les parents de Jésus, ont amené leur enfant précisément dans ce lieu. Je voudrais vous dire d'abord que ce lieu était certainement un des lieux les plus fréquentés de Jérusalem, parce que c'était le temple de Dieu. Et il y avait certainement beaucoup de gens qui venaient, qui passaient, de ci, de là, à toutes les heures de la journée, et c'est vrai que c'était une maison de prière, une maison ouverte. Mais, vous savez, venir au temple ou aller à l'église, pour certains, c'est devenu une habitude. Ça peut être quelque chose de tellement courant que, bien, ils ne peuvent plus s'en passer. Ils ne pourront pas vous dire, ils ne pourraient peut-être pas vous dire pourquoi ils ne peuvent plus s'en passer. Mais ils viennent parce que ça fait partie de leur vie, c'est intégré tout simplement à leurs habitudes. Alors, c'est vrai que ça ne devrait pas être comme ça, mais en ce qui concerne, eh bien, l'homme dont il est question, lui, il est venu d'une manière providentielle. Alors, j'espère que les uns et les autres, nous venons parce que nous aimons la parole de Dieu, nous nous retrouvons le vendredi soir, le dimanche après-midi, comme nous le partageons aujourd'hui. Mais peut-être que certains d'entre vous, peut-être certains amis nous rejoignent aujourd'hui en disant, ben tiens, je vais aller à la réunion, parce que j'ai besoin. Voilà. Non pas parce que je ne sais pas quoi faire, ou il n'y a rien d'intéressant à la télévision, mais parce que j'ai besoin de quelque chose. Et je voudrais simplement vous dire que si vous êtes là, vous ne l'êtes pas, certainement par le fait du hasard. Parce que pour moi, dans ma conviction personnelle en tant que chrétien, moi, le hasard n'existe pas. Il y a dans toute l'histoire des hommes de la Bible, des circonstances, des temps, des époques, qui font que, même si nous ne le savons pas encore vraiment nous-mêmes, eh bien, il y a des directions de Dieu. Il y a des orientations de Dieu qui fait qu'un homme, une femme, va se trouver à tel endroit, à tel moment, rencontrer telle personne ou recevoir tel message. Et permettez-moi de dire que ce n'est pas le fait du hasard. Alors on va voir un petit peu par le détail ce qui est arrivé à notre fameux Siméon. Pourquoi se trouvait-il aujourd'hui, à ce moment-là, au moment où Jésus, petit enfant, était présenté dans le temple, et ce qu'il a reçu? Parce que je crois que dans la conduite de Dieu dans notre vie, c'est que Dieu est véritablement pressé et impatient de nous bénir, de nous sauver et de nous apporter ce qu'il a mis au fond de notre cœur. Et je le répète, quelquefois il y a des situations au fond de notre cœur que nous n'arrivons pas à décoder, que nous n'arrivons pas à décrypter, mais qui sont là, faites par Dieu pour qu'au moment où vraiment, eh bien, il va y avoir cette rencontre, à ce moment-là, notre vie va s'illuminer. Notre vie va changer, et là, nous allons dire, mais vraiment Dieu était dans ce lieu. Vraiment Dieu m'a parlé cet après-midi. Il a fait quelque chose pour moi. Alors, simplement en reprenant les belles paroles de ce récit, il nous est dit qu'il y avait à Jérusalem un homme dont le nom était Siméon. Ça, c'était un nom très commun en Israël, Simon, Siméon et tout ça. Et puis, il est ajouté ceci, c'est que cet homme, il était juste et pieux. On pourrait se dire, un Israélite juste et pieux, il devait y en avoir certainement des milliers. Ça, c'est vrai. C'était, nous pourrions dire, comme nous l'avons vu ce matin, pour ceux qui étaient là, un craignant Dieu. Voilà. Ce matin, nous avions parlé d'un homme qui s'appelait Corneille, c'était un païen. Un craignant Dieu. Et là, nous allons parler d'un craignant Dieu, mais qui est juif. Il avait déjà une autre connaissance, hein, Siméon. Hein, et en plus, vous allez voir qu'il était, prophète. Mais enfin, on n'en parle pas pour le moment. Cet homme, donc, avait ce respect de Dieu. Qu'est-ce que c'est que hein, la piété et cette justice? C'était un homme, certainement, qui avait été élevé dans toute une éducation israélite très, très marquée. Et toute sa vie, eh bien, son cœur, son âme, ses pensées avaient été préparées à croire d'abord, à croire que Dieu était Dieu, qu'il était le créateur des hommes, qu'il était son créateur, et que par-delà, eh bien, ce Dieu d'Israël était un Dieu de délivrance, un Dieu de consolation, un Dieu qui donnait aux hommes une espérance d'une autre vie que celle que nous avons. En tant qu'homme sur la terre. Et cette piété, cette justice, faisait qu'il avait ce respect profond. Il y a des gens qui n'ont aucune crainte de Dieu. Ils se disent Dieu n'existe pas. Vous savez, il y a une parole dans le livre des Psaumes qui nous dit l'insensé dit que Dieu n'existe pas. Voilà, hein, qu'il n'y a pas de Dieu. Eh bien, il y en a qui pensent ça. Qu'est-ce que vous voulez y faire? Mais il y en a d'autres qui, peut-être avec beaucoup de méconnaissance, en celui auquel ils croient, dans celui auquel ils pensent, ils mettent leur espérance, que néanmoins, eh bien, ils disent, moi, quelque chose, il y a quelque chose dans le ciel, il y a forcément, eh bien, là, quelqu'un. Alors, ils ont ce respect. Et ils essaient de mettre leur vie au diapason avec ce qu'ils croient, tout simplement. C'est une forme, finalement, eh bien, là, de... Hein, de servir Dieu en quelque sorte, hein, on pourrait dire cela comme ça si on veut. Et voyez-vous qu'il nous est dit que par-delà ces qualités, il attendait la consolation d'Israël. Qu'est-ce que veut dire ce terme, la consolation d'Israël? Les Juifs, depuis toujours, depuis très très longtemps, avaient reçu les oracles. On peut dire les oracles de Dieu, c'est Dieu qui avait parlé, par des grands hommes, moi je pense à Abraham, je pense à Moïse en particulier, qui lui, non seulement il a entendu, mais il a fait que le peuple d'Israël reçoive les 10 commandements, la loi, etc., etc. Ça, c'est la parole de Dieu. Et ces hommes, finalement, eh bien, avaient ce saint respect, on pourrait dire, pour ce que Dieu avait dit. Et dans ces paroles que Dieu avait données à son peuple d'Israël, il y avait des promesses. Des promesses de délivrance, des promesses de secours, des promesses d'espérance, avec un grand espoir que la vie sur cette terre, elle est faite, c'est vrai, de joie et parfois de bonheur et de joie, on pourrait dire, mais elle est faite aussi de toutes sortes de vicissitudes, de pleurs, de malheurs et toutes sortes de choses. Alors, la délivrance, naturellement, elle correspond à toutes les infortunes de l'existence, à toutes les souffrances, à toutes les peines, à tous les chagrins que nous pouvons voir, la maladie, la mort, toutes sortes de choses. Et dans la loi, eh bien, il y avait cette parole de Dieu, il y avait finalement des promesses d'espérance qu'ils sont appelés ici des paroles de consolation. La consolation d'Israël, c'est que le peuple d'Israël qui avait eu de nombreux rois, qui avait connu des hauts et des bas, qui avait connu certainement des sommets spirituels, mais qui avait connu aussi des abîmes spirituels terribles, hein, la déportation et des péchés terribles que le peuple s'était finalement dans lesquels il s'était égaré. Alors ça faisait toutes sortes de choses. Et puis il y avait des hommes qui se disaient, mais comme on pourrait se le dire dans notre temps aujourd'hui, mais jusqu'où va aller le monde ? Oui, aujourd'hui, vous savez, on s'est souhaité la bonne année, hein, et qui peut dire qu'on pourra vous en parler savamment à la fin de l'année 2012, mais pour l'instant, on ne sait pas. Mais on sait très bien qu'il y a là comme une charge électrique, si vous permettez, comme quelque chose qui inquiète les gens. Hein, les gens sont en réflexion, parce que ça fait partie de la conversation de beaucoup de nos concitoyens aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va devenir? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va avoir du travail? Et puis la santé? Et puis ceci? Et puis le monde, comment il va? Hein, ça s'en va un peu de tous les sens. On entend des nouvelles. On se dit, mais voilà, hein, il y a des extrémistes, il y a des attentats, il y a et le pouvoir de la religion, et quelquefois à travers des fanatiques, à travers des intégrismes. On se dit, mais jusqu'où on va aller? Est-ce que l'on va tenir le coup? Parce que, quelque part, on se sent petit. Hein. On se dit, bah oui, mais il y a des millions et des millions, et voire des milliards d'hommes sur cette terre. Et si jamais un jour ça explosait, alors c'était un peu certainement les préoccupations des Juifs. Là, à cette époque, comme dans toutes les époques, comme dans notre époque, on se dit, mais on aurait besoin d'un sauveur. On aurait besoin de quelqu'un qui, véritablement, eh bien là, vienne rassurer, vienne nous délivrer. Alors, les hommes se donnent des rois, ils se donnent des présidents de la République, mais je crois qu'avec le respect que nous devons avoir pour nos autorités, ce n'est pas de ce côté-là qu'il faut voir. Parce que même le meilleur, il ne pourra pas faire grand-chose. Puisqu'il s'agit tout simplement eh bien, d'une consolation, d'une espérance d'un autre ordre. Si c'est pour avoir la paix, naturellement, on dit oui. Si c'est pour avoir tout ce qui nous est nécessaire pour vivre, on dit oui, on ne va pas refuser, naturellement. Mais il y a des besoins qui sont intimes, des besoins profonds dans le cœur de l'homme. Et là, c'est pourquoi nous sommes là cet après-midi. C'est que malgré le brouhaha, malgré finalement eh bien, le fracas de ce monde, de la mer et des flots, on pourrait dire, selon l'Écriture sainte, l'homme a besoin d'être assuré à l'intérieur de lui-même. Il a besoin d'une espérance, il a besoin d'une consolation. Et notre Siméon attendait la consolation d'Israël. Voilà. Il attendait qu'il y ait quelque chose. Et la consolation d'Israël, figurez-vous, elle se manifestait, elle avait été annoncée dans un fait précis, ou plutôt dans la venue de quelqu'un de bien précis qui serait le Messie pour les Juifs. Voilà. Les Juifs attendaient le Messie. Ils l'attendent toujours, d'ailleurs. Tiens à vous le dire. Parce que le Messie que Dieu leur a envoyé, ils l'ont crucifié. Mais toujours est-il qu'on revient à notre propos. Et ils attendaient qu'un homme qui ne vienne pas de la terre, mais un homme qui descende du ciel, enfin Dieu descende du ciel, sous la forme que vous connaissez, c'est-à-dire Christ, Dieu incarné, venant parmi les hommes pour les sauver. Ça, c'était la consolation d'Israël. Et c'est encore peut-être l'espérance, finalement, des hommes d'aujourd'hui, parce que nous avons vraiment besoin que quelqu'un vienne apporter la paix, que quelqu'un vienne apporter la tranquillité dans nos pensées, dans nos cœurs, dans nos âmes, quand on voit qu'il y a tant de gens qui sont perturbés par la dépression, par l'anxiété, par l'inquiétude, par le tracas, par toutes sortes de choses, où il y a tant de gens malades. Les gens sont malades. C'est vrai, ils peuvent l'être d'une manière extérieure, mais jamais, je crois que nous avons atteint un tel point où il y a tant de souffrances morales, psychologiques, des souffrances à l'intérieur des gens. Alors, il attendait cette consolation. Et nous voyons que la suite du récit nous dit « mais le Saint-Esprit était sur lui ». Alors on revient à ce que nous avons dit au départ, par le fait même que Dieu conduit le temps et les circonstances, et quelquefois il nous fait croiser nos pieds, nos pas croisent le chemin de quelqu'un qui va nous rendre témoignage. Où nous allons entendre une prédication, celle-ci ou une autre, aujourd'hui ou demain. Où nous allons avoir peut-être quelque chose qui va nous marquer profondément dans notre vie et qui viendra et nous le reconnaîtrons, qui viendront dans la main de Dieu. Tout ça a été préparé. Le Saint-Esprit conduit les hommes qu'il veut sauver. Le Saint-Esprit est sur ceux et celles, jeunes et moins jeunes, auxquels Dieu eh bien, veut s'adresser pour les bénir. Voilà. Alors, je voudrais vous donner et vous communiquer cette conviction cet après-midi. Vous n'êtes pas là pour rien. Vous n'êtes pas venu pour rien, même si vous avez pensé que c'était peut-être anodin de venir ici, mais néanmoins le Seigneur a quelque chose à vous dire. Il veut remplir vos cœurs, il veut peut-être vous guérir, il veut vous délivrer, il veut vous apporter eh bien, sa grâce et sa bénédiction. Et ça c'est important. Le Saint-Esprit était sur cet homme, il ne le savait pas. Peut-être Siméon. Le savait-il? Je ne sais pas. Mais toujours est-il qu'il y avait une conjonction de circonstances où il était au bon endroit, au bon moment pour recevoir finalement la consolation dont il avait besoin. Est-ce que vous avez besoin de consolation? Voilà la question. Est-ce que vous avez besoin d'espérance? Est-ce que vous avez faim et soif de quelque chose d'autre que le manger et le boire, le travail routinier ou non, qu'il soit intéressant ou pas? Est-ce que vous avez besoin d'autre chose que eh bien, ce que le monde peut nous apporter et qui peut nous satisfaire, c'est vrai, dans notre vie d'homme? Mais quelque chose de plus, comme un soupir. Ah Seigneur, comme disait le prophète, si tu déchirais les cieux et que tu venais au milieu de nous. Eh bien, permettez-moi de vous dire que Dieu a déchiré les cieux depuis 2000 ans et qu'il nous donne ce que nous avons besoin. Et particulièrement ceux qui souffrent. Regardez la compassion de Jésus dans l'Évangile à travers ces hommes et ces femmes qui sont en souffrance physique, morale et spirituelle. Jésus ne s'est jamais détourné d'eux. Comme je voudrais vous dire que Jésus ne se détourne pas de vous aujourd'hui. Que l'on soit chrétien engagé ou que l'on soit tout simplement sympathisant et que nous découvrons le message de l'Évangile. Il vous tend la main et il vous propose eh bien, de vous donner une espérance et de vous donner une consolation, une bonne consolation, quelque chose qui va vous suivre toute votre vie, dans la mesure où vous continuez à lui être fidèle, où nous restons dans sa dépendance. Les circonstances maintenant. Siméon avait été divinement averti par le Saint-Esprit. On a parlé avant-hier de notre héroïne nationale. Elle s'appelle Jeanne d'Arc. Vous connaissez, non? Alors, on a dit beaucoup de choses. Les historiens ne sont pas d'accord, mais enfin, ça ne me regarde pas. Mais toujours est-il qu'on peut se poser la question, en ce qui concerne Siméon, moi je ne parle pas de... Mais en ce qui concerne Siméon, comment peut-on être divinement averti par le Saint-Esprit? Voilà la question. Voilà. Est-ce que vous l'avez déjà été d'abord? Je pense que la plupart d'entre vous, vous pouvez dire à un moment ou à un autre de votre vie, j'ai vu Dieu agir dans mon existence. J'ai vu Dieu. Alors vous ne l'avez peut-être pas vu, mais je sais, je peux dire que Dieu est intervenu dans ma vie. Il a fait quelque chose de particulier, alors que j'étais peut-être au fond du gouffre, que j'étais malade, que j'ai crié à lui, et il m'a parlé, figurez-vous. Alors, il y a des gens, si vous dites ça sur le trottoir, ils vont dire, attention, hein, l'asile psychiatrique, hein, il n'est pas bien, il est illuminé. Hein. Non, non, mais c'est une réalité. Hein. Une réalité. Oui, Jésus, Dieu, interpelle des hommes et les conduit. Et c'est ce qui s'appelle, tout simplement, averti par le Saint-Esprit. Et là, nous ne nous y trompons pas. Nous apercevons que nous avons fait une expérience qui sera peut-être la première expérience et suivie de dizaines d'autres expériences. Mais c'est le premier pas. Et c'est peut-être ce que le Seigneur vous adresse si vous ne résistez pas. Et de lui faire confiance, de dire, eh bien voilà, à travers une parole, à travers des circonstances, tout simplement. Et il avait été donc averti par le Saint-Esprit. Et il a été averti de quoi? Ça, c'est formidable, parce que ça touche quelque chose dont nous aimerions peut-être savoir. Comme David le disait à Dieu dans une prière, « Ô Seigneur éternel, dis-moi le nombre de mes jours. » Ça vous intéresse de savoir quand vous allez mourir? Hein, c'est pas forcément... Ça permet de beaucoup s'angoisser, c'est tout. Mais bon, toujours est-il que ce n'est pas des questions à poser. Mais lui, il avait reçu finalement eh bien, la chose dans la manière positive, qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu Christ le Seigneur. Ouais. Il avait cette conviction qu'il ne quitterait pas cette terre, notre brave Siméon, qu'il ait vu le Messie, qu'il ait vu le Messie d'Israël. Vous vous rendez compte, le Christ son Sauveur, le Seigneur. On a entendu ces beaux témoignages, très touchants, troublants, de papa ou de maman âgés qui ont attendu le retour d'un fils et d'une fille et qui l'ont attendu pendant des années et qui ont conservé la vie jusqu'au dernier moment où ce fils et cette fille est venu sur les voir sur leur lit de mort. Vous connaissez cette histoire, moi j'en ai entendu hein, plusieurs fois, hein. Et ce prodigue est revenu, il a pu voir peut-être pour une dernière fois son père et sa mère mourant. Et là, à ce moment-là, ils ont pu partir dans la paix, et souvent accompagnés du pardon. Ouais, je peux maintenant m'en aller parce que j'ai retrouvé celui que j'avais perdu. Ça c'est beau, hein? Et c'est ce que Dieu fait. On a entendu le témoignage de notre... dernière sœur qui est partie il y a à peu près un mois, elle a retrouvé sa fille après 38 ou 40 ans d'absence. Et ensuite, elle est partie. Ouais. Ça faisait des années qu'elle n'avait pas reçu de lettre. Elle a reçu une lettre, comme quoi elle se réconcilie avec sa maman. Et elle est venue la voir, là, dans la clinique où notre amie est décédée. Mais elle est partie parce qu'elle pouvait partir, parce qu'elle avait refusé sa fille. Vous savez, il y a des choses dramatiques dans la vie, hein, pour les parents, pour les enfants. Et Siméon, lui, avait cette conviction intérieure qu'il ne mourrait pas avant une chose, d'avoir vu le Christ du Seigneur, c'est-à-dire le salut de Dieu. Parce que Christ, c'est le salut. Christ, c'est le pardon de Dieu. Christ, c'est notre espérance. Et je pense que chacun d'entre nous, nous sommes profondément interpellés, je le suppose, pour que nous réglions notre vie, que nous mettions nos problèmes à jour, nos affaires, nous pourrions dire, que ce soit par rapport à Dieu ou par rapport aux autres, pour que les choses puissent être réglées, le Seigneur va nous aider à les régler. Et après, nous pourrons partir en paix. Ouais, partir dans la paix. Que de drames et que de souffrances sur cette terre, que de blessures, que de brisures, que de cris, que d'angoisses. Alors lui, il le savait. Et c'est ce qui s'est passé pour lui. Il voulait voir le Christ du Seigneur. Alors, comme il avait été divinement averti, parce que c'était un homme qui était rempli du Saint-Esprit, écoutez la suite. Il vint au temple poussé par l'Esprit. Rien n'est étonnant dans toute cette affaire. Tout corrobore, tout s'emboîte, tout s'enchaîne. Oui, il est venu ce jour-là. On a entendu aussi de merveilleux témoignages, ne serait-ce que déjà dans cette église, j'en ai déjà entendu. Des gens qui passaient sur le trottoir. On se souvient d'une jeune fille qui s'appelait Armel et qui passe là, faisait ses études à Saint-Nazaire. Et à un moment donné, elle a été saisie. Elle passait devant, elle a ouvert la porte. Elle est venue écouter le message de l'Évangile. Certes, elle avait entendu le témoignage d'Esa là où elle était auparavant. Elle est rentrée, elle est venue entendre l'Évangile. Et c'est à ce moment-là qu'elle s'est convertie. Formidable, hein ? On pourrait dire, mais Seigneur, donne-nous de plus en plus des hommes et des femmes qui sont poussés par le Saint-Esprit vers toi. Ouais. Est-ce que vous croyez que Dieu peut vous pousser vers lui ? Ou vous attirer à lui ? Surtout que vous avez une promesse, hein ? Vous savez que les paroles testamentaires, nous pourrions dire, de Jésus, c'est celle-ci. Moi, je l'aime beaucoup, personnellement. Quand il est dit, lorsque j'aurai été élevé sur la croix du calvaire, j'attirerai tous les hommes à moi. Alors, moi, je veux croire que Dieu, d'une manière ou d'une autre, il appelle tous les hommes, hein, pour qu'ils connaissent la vérité et qu'ils soient sauvés. Alors voilà, donc, il est venu au temple, poussé par l'Esprit. Et comme les parents, dont nous avons cité le nom tout à l'heure, Marie et Joseph, apportaient le petit enfant au temple pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il s'est trouvé être devant, ce petit groupe de trois personnes, les parents et l'enfant, et il les a reçus dans ses bras, vous vous rendez compte ? Un vieillard, il avait, quand même que je vous dise, son âge, c'était pas un tout jeune, Siméon, c'était un homme qui avait au moins peut-être 80 et quelques années, donc il était à la fin de sa vie, il avait attendu toute sa vie pour ce moment-là. Et il y a parfois des circonstances dans notre passage sur cette terre, où des hommes, des femmes, on va attendre des années pour une chose. Mais ce sera la chose principale, ce sera la chose essentielle. Et c'est ça ce qui est important. Il y en a qui vont découvrir le Seigneur dans leur enfance, dans leur jeunesse. D'autres qui vont le découvrir dans le milieu de la vie, parmi les occupations et toutes les agitations de l'existence. Et puis il y en a qui le découvriront au terme, finalement, de leur vie. Je me souviens d'un monsieur dont j'ai procédé au service de baptême. Il avait 85 ans. 87 ans, je crois. Ouais. Et il avait combattu sa femme qui était chrétienne pendant 40 ans. Il l'empêchait d'aller au culte et tout ça. Et à 87 ans, notre brave Marius, il a été appelé divinement par le Seigneur à ce moment-là, après avoir été une opposition au christianisme de sa femme. Il était au bout, Il nous a fait appeler. Il est venu aux réunions. Et là, il s'est converti, il avait près de 88 ans, je crois, quand on l'a baptisé. Et puis après, il est parti dans la gloire. On pourrait dire, il a eu de la chance. Juste in extremis. Mais c'est comme ça. Et je crois que, croyez bien que le Seigneur veut faire des choses extraordinaires pour nous. Vous avez vu, il nous a dit que Siméon le reçut dans ses bras. Et moi, je voudrais mettre les choses un petit peu dans l'autre sens. Moi, j'aimerais bien, et je veux croire, que Jésus va vous recevoir dans ses bras. C'est une pensée de l'esprit, naturellement, hein, vous n'allez pas... Mais c'est vrai. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Recevez mes instructions, parce que je suis doux et humble de cœur. Alors venez à moi, dit Jésus. C'est à lui qu'il faut venir. Je poursuis. Il a dit quelque chose, hein, Siméon. Il a dit, maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Oui. Car mes yeux ont vu ton salut, salut qui est, que tu as préparé devant les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Maintenant, Seigneur, chacun d'entre nous qui sommes engagés et qui connaissons le Seigneur depuis des années, on peut dire, maintenant, Seigneur, je sais. Je ne sais pas tout. Je suis loin de savoir tout, mais je sais qui tu es, Seigneur. Je sais que tu as touché ma vie. Je sais que tu as fait de grandes choses dans ma vie. Je sais que tu as été ma délivrance à combien d'occasions. Je sais que tu me donnes la joie et la paix dans mon cœur. Je sais que tu es encore celui qui m'accompagne, qui me prend dans tes bras, qui me tient par la main dans les moments difficiles de mon existence. Maintenant, Jésus, je le sais. C'est ce qui fait que nous sommes chrétiens, que nous sommes engagés et que nous n'avons pas envie de changer de chemin. Parce que nous savons en qui nous avons cru. Maintenant, je sais, Seigneur. C'est ce qui fait que être un chrétien authentique, c'est un chrétien qui est passé par une expérience et qui a une conviction. Ce n'est pas un chrétien de tradition ou d'adhésion, c'est un chrétien de conviction. Les gens nous quelquefois s'étonnent en disant, mais comment vous pouvez aller au culte tous les dimanches matins, mais vous n'en avez pas marre de tout ça? Comment vous pouvez lire votre Bible? Comment vous pouvez prier? Et ceci et cela. Il y a des gens qui nous ont fait cette réflexion. Je lui dis, mais nous, pour nous, c'est naturel et c'est normal et on aime. Non? Eh oui, et on ne se force pas pour le faire parce qu'on sait en qui nous avons cru. Et celui qui nous a appelés, eh bien, on est rempli de son amour et de sa grâce. Alors ça change tout, hein. Les chrétiens du Nouveau Testament, les chrétiens des premières heures et des premiers jours du christianisme, c'était des gens qui étaient fervents. Ouais, ils chantaient des cantiques, ils étaient joyeux, malgré les difficultés et les problèmes de la vie, hein, et il y en aura toujours. Maintenant, Seigneur, eh bien moi je sais que vous puissiez avoir cette conviction. Tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Oui, vous savez, il y a deux façons de partir de cette terre. Partir sauvé ou partir perdu. Moi, j'en connais pas d'autres. Hein. Alors je sais, c'est un petit peu manichéen hein, la manière dont je vous le présente. Hein. Mais néanmoins, c'est quand même ça. Quand on est sauvé, mais la mort... puisque nous en parlons, n'est pas quelque chose de redoutable. On reste des hommes, avec notre sensibilité et nos émotions, avec nos chagrins et nos peines, pour nous ou pour ceux que nous aimons. Mais une chose qui est certaine, c'est que nous savons où nous allons. Est-ce que vous savez où vous allez? Parce que ça, c'est important. Si vous demandez à un vrai chrétien, il va aller, il vous dira, mais moi, je vais rejoindre Jésus dans le ciel. Et si vous posez la question à quelqu'un qui est sans espérance, il va dire... j'ai déjà préparé ma sépulture, j'ai déjà une place, j'ai déjà une concession perpétuelle en bas. Ça change de langage, hein. Mais nous avons une espérance. Tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole parce que c'est toi qui l'as dit. Et vous savez, la force de notre foi, c'est parce que nous croyons que ce que le Seigneur nous a dit, il va l'accomplir. Et là, il l'avait accompli pour Siméon, naturellement. Car mes yeux ont vu ton salut. Oui, Seigneur. Dans mon cœur, il y a une espérance. Mes yeux ont vu ton salut, ce n'est pas mes yeux là, ceux-là, mais les yeux de mon cœur. Ça s'appelle la foi, ça. Oui, je sais. Je sais, j'ai la certitude. Salut que tu as préparé devant tous les peuples. Parce que le salut va devenir quelque chose d'universel. Ce n'est pas seulement pour les Juifs. Et ce qui faisait certainement la joie de Siméon, c'est qu'il y avait aussi des promesses dans l'Ancien Testament, pardon, que le Dieu... d'Israël, enverrait son Messie, non pas seulement pour sauver son peuple d'Israël, mais sauver les hommes du monde entier. Le salut allait devenir universel. Tous, les blancs, les noirs, quelle que soit la nationalité, quelle que soit la religion, peu importe. Salut préparé pour tous les peuples et lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, hein, ton peuple. Ah oui, lumière pour éclairer les nations. Vous savez que Jésus est la lumière, hein, la lumière du monde. Et il ajoutera ceci, que celui qui le suit, celui qui me suit, ne marchera pas dans les ténèbres. Ouais, il passera de la mort à la vie. Il passera des ténèbres à la lumière. Il passera du mensonge à la vérité de Dieu. Pas la vérité des hommes, pas la vérité d'une religion, mais la vérité de Dieu. Gloire d'Israël, ton peuple. Alors je termine. Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. C'était Siméon qui parlait. Il était prophète. Et il va prophétiser des choses qui sont difficiles. Siméon les bénit et il dit à Marie, sa mère. Moi, j'aime bien quand il est dit Siméon les bénit. Un homme bénir Jésus. Un homme bénir Dieu. Il a béni Marie, il a béni Joseph et il a béni certainement le petit enfant. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'aujourd'hui, c'est fini tout ça. On peut bénir le Seigneur avec notre bouche et notre louange, ça c'est sûr. Mais une chose qui est au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer, c'est que c'est Dieu qui nous bénit à travers Jésus-Christ. La bénédiction est infinie, elle est merveilleuse, elle est illimitée. C'est lui qui nous bénit, si nous voulons être bénis naturellement. Et il va dire cette parole, particulièrement à Marie, « Voici cet enfant est destiné à mener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël, et à devenir un signe qui provoquera la contradiction au milieu de son peuple. » Et qu'est-ce que Jésus a amené la contradiction ? On attendait un Messie puissant, glorieux, admirable et merveilleux, humainement parlant. Et on a vu ce Messie venir naître dans une crèche, rempli d'humilité, rempli de modestie, parlant des paroles ineffables, pas des paroles politiques, mais des paroles ineffables, dévoilant l'âme, l'esprit, le cœur des hommes, proposant, finalement, eh bien, à travers un langage d'amour, le salut de Dieu. Et ça provoquait naturellement eh bien, la contradiction. Parce que les tenants de la religion d'Israël disaient, mais vous vous rendez compte, ce pauvre prophète de Nazareth, peut-il venir un prophète de Nazareth d'abord, hein? Qu'est-ce que c'est que cet homme qui s'arroge le droit de parler de Dieu, ouais. Et même ses ennemis, à un moment donné, vont être convaincus qu'il n'y a pas d'autre chose à faire, puisqu'ils iront dire même, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Dans les paroles, dans les enseignements de Jésus, dans ses paraboles merveilleuses, dans les béatitudes, jusqu'à la croix, jusqu'aux dernières paroles de la croix, ce sont les paroles de Dieu, à travers les signes, les miracles, les prodiges que Jésus va faire, jusqu'à ressusciter les morts. C'est époustouflant, c'est incompréhensible, et c'est forcément incompréhensible parce que ça dépasse notre dimension terrestre, puisque ça vient du ciel. Naturellement, il a apporté la contradiction. Puisqu'il a dit à tous ces juifs religieux, il leur a dit, mais qu'est-ce que vous êtes là, prisonniers de vos traditions, de vos us et de vos coutumes? Tout ça, mais ça n'a plus de sens, puisque vous ne le faites même plus avec votre cœur. Vous en avez perdu l'essentiel de la pensée. Vous parlez de Dieu, mais vous ne pensez pas à lui. Votre cœur est éloigné de moi. Vous avez la bouche pleine de louanges et pleine de choses, mais votre cœur est ailleurs. Ça ne sert plus à rien. C'est une religion morte que votre religion. Et moi, je suis venu vous dire qu'il faut que vous naissiez de nouveau, que vous puissiez avoir la vie de l'Esprit en vous, que vous vous repentiez de vos péchés, que vous vous convertissiez et que vous passiez par la nouvelle naissance. Alors à ce moment-là, vous allez voir que votre religion, ça ne sera plus de la religion, ça sera véritablement une force de vie, quelque chose d'impétueux qui jaillira, Jésus le dira, hein, la Samaritaine, jusque dans la vie éternelle. Alors, il a amené la chute et le relèvement. Ceux qui l'attendaient, comme Siméon, ça a été un relèvement pour eux, une consolation, une espérance. Et puis pour ceux qui ne l'attendaient pas et qui ne voulaient pas voir en Jésus le Sauveur et le Messie, c'était la chute. Dixit, les pharisiens, les sadducéens et tous ceux qui étaient collés montés en disant « Mais Dieu ne peut pas nous parler de cette manière, c'est pas possible. » Alors ils l'ont crucifié. Et il dira à Marie « À toi-même une épée te transpercera l'âme afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. » Marie, la mère de Jésus, était à la croix. 30 années plus tard, après cet événement, et elle a vu qu'une épée a transpercé le corps de Jésus, le corps de son fils. Ouais, ça s'est accompli. Ce n'était pas une épée, c'était une lance. Mais ça revenait au même. Alors nous voyons que dans tout cela, eh bien, il y a naturellement un message formidable pour chacun d'entre nous, pour pouvoir penser que Dieu a une réponse, Dieu a une espérance, Dieu a une consolation. Et quand nous avons lu, et je termine par ce que nous avons commencé, il nous est dit que ces prophètes de l'ancienne alliance des temps anciens, dont Siméon pourrait dire que c'était le dernier des derniers, lui, hein, parce qu'il était prophète, mais il a prophétisé, non pas sous l'inspiration de la loi, mais l'inspiration de la grâce, puisqu'il venait de recevoir la grâce, mais c'est toujours la grâce et la loi, de toute façon. Il nous est dit qu'ils ont été l'objet de leurs recherches et ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux. Je voudrais tellement que l'Esprit de Christ soit en chacun d'entre nous cet après-midi. L'Esprit de Christ. Est-ce que vous ressentez? Est-ce que vous, comment dire, approchez déjà cette présence de l'Esprit de Dieu en vous, l'Esprit de Christ qui était en eux, attestant les souffrances de Christ et de la gloire qui allait en découler? Parce que Christ est mort, il n'est pas mort pour lui-même, il est mort pour nous. Mais à travers sa résurrection, à travers son ascension au ciel et à travers sa glorification, c'est notre salut maintenant. C'est pour cela qu'il est question des souffrances de Christ et il est question de la gloire qui en suivrait. Et nous, nous sommes au bénéfice de cette gloire qui a suivi finalement la crucifixion de Christ. Et nous pouvons dire que nous sommes sauvés parce que c'est Dieu qui a mis la foi dans notre cœur. Est-ce que vous voulez, est-ce que nous voulons que cette foi augmente? Et est-ce que pour ceux qui sont au milieu de nous cet après-midi, vous voulez dire, eh bien tout simplement, Seigneur, je t'accepte dans ma vie, je veux que tu me remplisses complètement et totalement de ton esprit et que je puisse proclamer avec d'autres hommes sur la terre, ils sont des millions et des millions, on les appelle les chrétiens, que Jésus-Christ est sauveur, que Jésus-Christ est Seigneur et qu'il revient bientôt pour nous prendre avec lui dans son ciel de gloire. Que Dieu nous bénisse. Nous allons simplement prier quelques instants. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier parce que nous croyons que les mots, qui sont des mots forts, des mots d'aujourd'hui, Seigneur, des mots de besoin, des mots, Seigneur, qui, en effet, effacent notre misère, c'est le mot espérance, c'est le mot consolation, c'est le mot salut. Seigneur, nous voulons te remercier pour cette parole cet après-midi. Mais je veux te prier particulièrement pour nos amis, qui n'ont peut-être pas fait le pas, qui sont restés encore à la porte, et qui pourtant, peut-être depuis longtemps, depuis des mois, depuis des années, Seigneur, sont appelés par toi. Alors, Seigneur, dans le nom de Jésus, nous voulons croire qu'il n'y a pas de hasard, et que si aujourd'hui, cette parole leur a été donnée tout à nouveau, c'est pour qu'ils prennent une décision. Nous savons que Simon n'a pas eu de difficulté à prendre cette décision parce qu'il était préparé à recevoir dans son cœur et dans ses bras l'enfant Jésus, le Messie attendu, la consolation d'Israël. Seigneur, dans le nom de Jésus, nous voulons croire, Père éternel, et nous pouvons le dire avec l'expérience qui est la nôtre, qu'il n'y a pas d'autre bonheur que de connaître Jésus, que de connaître la vraie vie, de connaître ta grâce et de la recevoir. Seigneur, dans le nom de Jésus, maintenant, passe dans les rangs, visite les cœurs, et que, Seigneur, silencieusement, nous pouvons dire, eh bien, Seigneur, tu m'as poussé par le Saint-Esprit à entendre ton appel. Et moi, je veux simplement te dire la parole que tu attends, que tu agrées, Seigneur. Cette parole qui va te permettre de me bénir. Oui, Seigneur Jésus, je viens vers toi. Je t'accepte comme mon sauveur et mon sauveur personnel, le Seigneur de ma vie et le sauveur de mon âme. Je te demande pardon pour mes péchés. Et je sais, Seigneur, que tu vas me donner une nouvelle vie. Nous croyons que Siméon savait qu'il n'allait pas mourir avant. Eh bien, Seigneur, nous croyons que toi, tu es venu cet après-midi pour nous donner la vie avant que nous partions de l'autre dimension, dans l'autre dimension. Merci, Seigneur Jésus. Merci parce que tu t'es engagé et moi, je veux m'engager pour toi maintenant. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté, ta fidélité. Merci, Seigneur.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.